Nous vous proposons une nouvelle édition de Du côté de chez Schwartz, l'émission actuelle et culturelle de Radio Shalom. Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir François Racheline, auteur de Moïse et l'humanisme, qui vient de paraître aux éditions Hermann. Bonsoir François Racheline.
Bonsoir Madame Farce.
Un mot de présentation d'abord, vous êtes économiste de formation, écrivain, universitaire, essayiste et romancier. Vous êtes l'auteur d'ouvrages d'économie, de romans et d'essais. Et chez Hermann, vous êtes déjà l'auteur d'une trilogie biblique, La loi intérieure en 2010, Au commencement était le futur en 2015 et Un monothéisme sans Dieu en 2018. Une trilogie qui s'enrichit d'un nouveau titre, Moïse et l'humanisme. Et c'est de cette actualité que nous allons parler aujourd'hui dans votre essai. Et pour résumer, vous expliquez que la Bible hébraïque peut avoir au moins deux lectures, une lecture religieuse et une autre métaphysique. Quelle que soit notre lecture, le message délivré aboutit à une éthique, l'humanisme. D'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous est venue l'idée d'écrire et de composer cet essai ?
Vous voulez dire le dernier, c'est l'humanisme, Moïse et l'humanisme.
Tout à fait.
Écoutez, ça fait à peu près 25 ans que je travaille des voies bibliques avec un maître et un ami. Et en 25 ans, les questions surgissent les unes après les autres.
Vous pouvez citer son nom, le nom de cet ami ?
L'ami avec lequel je le fais, c'est Gérard Garouste,
oui.
Le peintre Gérard Garouste. Et le maître ne veut pas qu'on donne son nom de famille, mais il s'appelle Yaakov.
D'accord.
Lorsque Yaakov m'a demandé un jour pourquoi je fais ça, je lui ai dit que je voulais comprendre un peu mieux pourquoi je pensais ce que je pensais et qui j'étais, mais que je n'avais pas d'autre but, je n'avais pas de véritable but. Et il m'a répondu que lorsqu'on a un but en étudiant la Bible, on peut rater ce but, mais lorsqu'on n'en a pas, on en découvre beaucoup. Eh bien, j'en ai découvert beaucoup, et l'un de ceux que j'ai découvert, c'est celui qui m'a conduit à écrire la trilogie et puis maintenant ce livre.
D'accord. Alors, votre essai impose un certain nombre de questions qui sont souvent inexplorées concernant la Bible hébraïque. Alors, pour débuter, vraiment la question basique, est-ce que vous pouvez rappeler aux auditrices et aux auditeurs de la fréquence juive sur quel corpus repose la Bible hébraïque ?
Sur quel corpus, c'est-à-dire le...
Eh bien, alors, la Torah, Nevi'im et Ketuvim. Voilà.
Oui, voilà. Non, évidemment, c'est l'ensemble de la Bible. Moi, j'ai principalement travaillé sur la Torah, c'est-à-dire sur les cinq livres de la Torah, c'est-à-dire la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome, principalement. Je ne suis pas, évidemment, interdit d'utiliser des éléments qui proviennent des prophètes ou d'autres livres de la Bible, mais c'est principalement sur la Torah que je me suis concentré.
Alors, quelle est votre démarche, votre méthode pour interpréter les textes de la tradition juive ? Est-ce que vous vous placez dans la critique biblique ?
La critique biblique est un élément qu'on ne peut pas écarter, parce que, qu'elle soit historique ou archéologique, elle est extrêmement importante pour éclairer la lecture. Mais moi, mon travail, c'est un travail que je me suis efforcé de concentrer sur le texte lui-même, quel que soit la date à laquelle il apparaît, quels que soient ceux qui l'ont rédigé, quelles que soient les divergences qu'on peut avoir sur tel ou tel aspect. Et dans le texte biblique, lorsqu'on le prend évidemment dans la langue, c'est-à-dire en hébreu, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de passages, pas tous heureusement, dans lesquels il existe une ambivalence ou certaines ambiguïtés qui ont été tranchées, notamment parce que vous le savez, j'imagine que nos auditeurs le savent, la Bible a été écrite sans voyelles, sans ponctuation, et elle était chantée puisque les gens ne savaient pas écrire, ils ne savaient pas lire, ou dans l'immense majorité. Et donc c'est un texte qui a donné lieu à une stabilisation de sa vocalisation, et notamment dans le mouvement des massorètes, qui s'étale probablement disons du 1er siècle après Jésus-Christ, de notre 1er siècle de notre ère, jusqu'au 8e, 9e siècle. Enfin, il y a là-dessus également des interprétations qui peuvent être, disons, divergentes. Mais en tout cas, les massorètes ce sont des rabbins, ce sont des docteurs de la loi qui ont proposé de vocaliser tel ou tel passage, tel ou tel mot, en fonction de ce qu'ils pensaient être le respect de la tradition orale historique. Mais dans certains de ces passages, il y a des ambiguïtés, et moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est de regarder ces ambiguïtés.
Alors, vous écrivez, hein, page 32 de votre livre, sorte de palimpseste littéraire où se lit en filigrane une autre histoire. C'est cette dimension longtemps masquée derrière une lecture croyante ou religieuse que cet essai veut mettre en évidence. Alors, la question se pose, hein, pour chacun des lecteurs de la Bible, texte révélé ou pas. Est-ce que vous, votre propos est de dire que chacun peut trouver dans l'analyse du texte un message universel, qu'on soit croyant ou pas ?
Alors ça oui, ça c'est la conclusion à laquelle on peut aboutir à la fin de mon ouvrage. Mais les chemins pour y parcourir peuvent être différents. Tout se joue assez tôt dans le tétragramme, donc en hébreu Yud Hé Vav Hé, en français YHWH, en lisant toujours de droite à gauche, dans les langues sémitiques, l'hébreu comme l'arabe. Et dès lors que, j'imagine que tout le monde sait que YHWH, ou en tout cas on peut l'expérimenter, c'est imprononçable. C'est absolument impossible de prononcer YHWH, quelles que soient les voyelles que vous mettez dessus, même si il y en a quelques-unes qui ont eu une sorte de, disons, dans l'histoire, elles ont été privilégiées comme Yehova ou comme Yahvé. Mais en réalité, il n'y a pas de voyelles, donc c'est intraduisible. Absolument, c'est indicible et intraduisible. Si vous décidez de traduire cela par un mot qui aujourd'hui est assourdi, comme dit André Chouraki, le mot « Dieu », vous êtes automatiquement embarqué dans le monothéisme. Si vous ne traduisez pas, une autre voie s'ouvre devant vous.
Alors justement, vous insistez sur la révolution incarnée par le récit mosaïque, notamment au travers du tétragramme, vous venez d'expliquer. Nommer, c'est révéler, et vous traduisez littéralement l'Élohim d'Israël par « je serai ». Qu'est-ce que ça implique comme changement révolutionnaire ?
Alors d'abord, vous avez prononcé le mot « Élohim ». Le mot « Élohim », c'est le mot général, c'est un mot générique pour l'ensemble de toutes les divinités de l'époque.
Alors, si vous le permettez, on va faire un petit aparté, parce que ça, c'est très important, c'est un pluriel. Oui. Et vous nous expliquez bien, hein, au lecteur, qu'il est très important d'insister sur le contexte de l'époque de la mise par écrit de la Bible hébraïque. Une époque où tout est religieux, et le mot d'ailleurs « religion » n'existe même pas en hébreu, il est un peu comme l'air qu'on respire. Et quand on appréhende justement cette idée d'Élohim, il faut avoir le contexte, le texte et le contexte en ligne de mire.
Oui, parce qu'on a un peu tendance à oublier le contexte, si vous voulez, l'histoire. On conserve de l'histoire son résultat. Alors on dit, bon voilà, c'est les dieux. Mais par exemple, le mot Elohim, c'est difficile de traduire par Dieu, et surtout au singulier. Et les lecteurs de la Bible savent que le texte commence par Bereshit, Bara, Elohim. Vous avez un pluriel qui est Elohim, et vous avez Bara, qui est le verbe livro, qui est au singulier. Alors, on a pris l'habitude de traduire Elohim par Dieu. Mais beaucoup de gens oublient, par exemple, que dans le credo fondamental du judaïsme, c'est-à-dire le chemin Israël, on dit « chemin Israël, Adonai, Eloheinu ». Il n'y a pas écrit « Eloheinu ». Il n'y a pas écrit « notre Elohim ». Il y a écrit « Eloheinu ». C'est « nos Elohim ». Donc c'est à chaque fois un pluriel. Et d'ailleurs, les rédacteurs du texte biblique savaient évidemment qu'il y avait une multiplicité de divinités. Alors je dis divinité, je ne sais pas très bien comment traduire Elohim, puisque moi je suis très là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec André Chouraki, les mots Elohim et le tétragramme, on ne les traduit pas, on les conserve. Et dans sa magnifique traduction de la Bible, de la totalité de la Bible, il conserve systématiquement ces deux mots, il ne les traduit jamais. Et j'ai toujours été frappé du fait que dans toutes les langues, on les traduit. Alors, on peut dire, je sais pas, éternel, Seigneur, Père, Tout-Puissant, tout ce que vous voulez. Toutes les langues le traduisent, alors qu'en réalité, le concept du tétragramme a été probablement conçu pour être intraduisible. Ça, c'est une affaire que peut-être dont on va parler avec Moïse. Oui. Et donc dans le contexte, je ne veux pas être trop long, mais dans le contexte, il faut savoir que il est inconcevable pour un homme et une femme qui vivent au 7e, 8e, 10e siècle avant Jésus-Christ, c'est inconcevable d'avoir une représentation de la société sans qu'il y ait des esprits, sans qu'il y ait des divinités, sans qu'il y ait quelque chose qui nous échappe et qui nous gouverne. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est un peu différent. Si on disait à quelqu'un qu'est-ce qui nous échappe et qui nous gouverne, il vous répondrait « Ah, ça, il faut interroger Freud ». On ne dirait pas qu'il y a des divinités. Même, vous voyez, donc C'est extrêmement important d'avoir ça présent à l'esprit.
Alors ça nous amène justement à la question du « je serai
oui. »
du tétragramme.
Bah, écoutez, quand, ça c'est dans le... Je dis souvent quand on me demande d'en parler que c'est facile de s'en souvenir puisque c'est le chapitre 3, verset 14. Donc c'est 3-14, mm-hmm. c'est comme pi. Voilà, bon. Donc le chapitre 3 de l'Exode et le verset 14, c'est un point culminant. Et d'ailleurs c'est un point vertigineux dans la littérature universelle. Parce que au chapitre 3 de l'Exode, Moïse est confronté au buisson ardent et il fait l'inventaire de tout ce qu'il va devoir faire pour proposer aux Hébreux de s'échapper, de partir, de quitter l'Égypte. Et puis il y a un moment quand même où il s'est dit, bon, ok, alors, bon, je sais pas parler, et tout ça est mis sous forme de dialogue, c'est pas grave, c'est ton frère qui parlera, oui, mais en fait, je sais pas très bien comment je vais m'y prendre, t'en fais pas, je serai avec toi. Bon. Puis il y a un moment où Moïse se dit, bon, d'accord, alors je parle, je vais m'adresser aux Hébreux, et là, ils vont me dire, mais tu viens de la part de qui ? Tu as beau nous dire, c'est tu viens de la part de l'Élohim de nos pères, l'Élohim d'Abraham, l'Élohim d'Isaac, l'Élohim de Jacob, mais enfin, quel est son nom ? Et ce qui est extraordinaire, c'est que sur un seul verset, qui est en deux temps, d'abord YHWH, puisque c'est un dialogue, c'est une sorte de mise en scène, YHWH dit à Moïse, bah, tu leur diras, je serai ce que je serai. Et puis le verset se continue, et comme si on résume en disant, dans le fond, c'est, tu n'as qu'à dire, si on te demande de la part de qui tu as envoyé, que tu viens de la part de « je serai ». Or, en hébreu, il n'y a pas besoin de dire « je serai », on dit « serai », c'est « ayez ». Un seul mot, met fin à s'oppose à toute une histoire multimillénaire d'adhésion à des esprits, à des divinités, à des idoles. Un seul mot. Et ce « je serai », ça mérite quand même de le regarder avec attention. On ne donne pas un nom. Juste le verset d'après, il est dit « Zéchemi Léolam », c'est-à-dire, ça sera, soit on lit « c'est mon nom pour toujours », mais Rashi, à la suite d'un rabbin, on trouve ça dans le Talmud, a signalé qu'il n'y avait pas de vav dans un cas, que donc c'est le verbe Léalim, que le verbe Léalim, ça veut dire caché. Donc en fait, c'est mon nom caché pour toujours. Alors un nom qui est caché pour toujours, est-ce que c'est un nom ? Ça se discute. Mais en tout cas, la seule chose que peut répondre Moïse si on lui demande de la part de qui il vient, c'est « je serai ». Alors, moi je me suis dit, bon, si je suis dans la foule des Hébreux, et que je demande à Moïse qui t'envoie et qui me dit « je serai », quand même, c'est pas très satisfaisant. En tout cas, à l'époque, j'ai du mal à comprendre.
Et c'est précisément de ce moment-là que naît l'invention du monothéisme.
Alors, ça, je crois pas.
Vous ne croyez pas ? D'accord,
non,
expliquez-nous.
Je ne crois pas. Je crois qu'à partir de ce moment-là, mm-hmm. vous avez deux voies, c'est les deux voies qui s'ouvrent. Mm-hmm. Une première voie qui s'ouvre et qui mènera au monothéisme, c'est d'entendre ce « je serai » comme on entendrait Baal, Amon ou Marduk, c'est-à-dire un nom. Et alors à ce moment-là, on dit « bon, ben, Moïse a bien répondu qu'il venait de la part d'une divinité, et qu'il est une divinité qui, un jour ou l'autre, c'est un peu messianique, un jour ou l'autre, sera. Bon. » Ça, c'est tout ce qui va embarquer vers la vision monothéiste, avec la construction du monothéisme à partir de Josias, disons à partir de 650 avant notre ère, et puis bien entendu après, avec le Talmud, la Kabbale, etc. L'autre voie, elle est tout à fait différente, et l'autre voie, je mets un X et un E à voie, hein, mm-hmm. on peut entendre les choses de manière différente, c'est si vous me demandez de la part de qui je viens, je vous répondrai, je viens de la part de je serai. C'est-à-dire que moi j'entends Moïse me dire, sois toi-même, réfléchis à ce que tu seras. C'est-à-dire, ne compte que sur toi. Et là, la voie qui est ouverte, c'est plus une voie monothéiste. Ce n'est pas incompatible avec le monothéisme. Mais la voie qui est ouverte, c'est la voie de l'humanisme. C'est-à-dire, l'essentiel, c'est les êtres humains. Ce n'est pas la divinité. D'ailleurs, dans la Bible, on ne dit pas ce que c'est que Elohim ou YHWH, on ne s'en occupe pas. C'est une donnée. Bon. Et, par exemple, tout à l'heure, vous avez évoqué la révélation. Moïse Mendelssohn, le grand philosophe du XVIIIe siècle, disait que le judaïsme n'est pas une religion révélée. c'est une législation révélée. C'est-à-dire que c'est une affaire entre les hommes. C'est pas une affaire entre les hommes et quelque chose qui leur échappe.
Alors justement, là, dans ces différentes lectures pieuses ou humanistes qui se rejoignent, hein, finalement, il y a cette idée qui est reconnue, hein, vous l'expliquez, que tout le monde est à peu près certain que la Genèse, le livre qui ouvre l'ensemble, a vu le jour après l'Exode. Est-ce que cette idée-là peut être incompatible avec une lecture religieuse qui dit que la notion de temps n'existe pas dans le récit des événements? Si elle est révélée, inspirée par Dieu, le temps n'existe plus.
Écoutez, ça ne pose pas de problème. Le fait que la Genèse puisse avoir été écrite après et insérée avant ne change rien. Ce qui compte, c'est la nature du texte, la profondeur du texte. Et effectivement, la temporalité, d'une certaine manière, on s'en fiche. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est une vision et c'est l'éthique liée à cette vision. Ça, c'est le point le plus important. Le reste, me semble-t-il, peut donner lieu à des débats, ça peut donner lieu à des analyses historiques, archéologiques, en général assez intéressantes, mais qui ne changent pas le fond de la question. Le fond de la question, c'est la naissance d'une éthique. Et la naissance de cette éthique, c'est évidemment, elle est résumée par ce qu'on appelle les 10 commandements, qui est, comme j'imagine, tout le monde l'aura noté, mais parfois, les évidences sont tellement devant nos yeux qu'on ne les voit pas. C'est que c'est la première fois qu'un texte s'adresse à des individus en les tutoyant. Tu ne feras pas d'idole. Tu n'assassineras pas, tu honoreras tes parents, tu ne violeras pas, tu ne voleras pas. C'est-à-dire, tout d'un coup, on s'adresse à chacun en lui disant, à chacun et à chacune bien sûr, si toi, tu changes quelque chose dans ta vie, tu vas construire quelque chose de nouveau. C'est ça, bon, le reste, j'ai envie de dire, c'est presque du détail.
Nous sommes toujours dans Du côté de chez Schwartz, l'émission culturelle et actuelle de Radio Shalom, et nous avons le plaisir de nous trouver en compagnie de François Racheline qui nous parle de son actualité, la parution de Moïse et l'humanisme qui vient de paraître aux éditions Hermann. Un contresens est généralement fait sur l'idée d'élection du peuple juif. L'expression de peuple élu n'existe même pas dans le texte biblique, vous l'expliquez. Alors est-ce que vous pouvez nous dire en quoi le peuple élu fait partie d'une idée reçue qui a souvent été d'ailleurs un prétexte d'antijudaïsme?
Oui, les antisémitismes, enfin, souvenez-vous de ce que disait Hitler, hein. On va voir qui sont élus. Alors, la première chose qu'on doit faire lorsqu'on parle de peuple élu, c'est de rechercher l'expression dans la Bible. Normalement, on devrait trouver l'expression. Or, on ne trouve pas l'expression peuple élu. On ne trouve pas Am Nivrar. On trouve, la seule expression qu'on trouve, c'est Am Segula. Elle a été traduite par « peuple élu » ou par « peuple trésor », parce que le mot « ségoula » tout seul veut dire « trésor ». Mais « âme ségoula », c'est plus compliqué. Il n'y a que trois fois où ça apparaît, dans le Deutéronome, si je ne me trompe pas, si ma mémoire ne fait pas défaut, voilà. Les traductions sont... C'est embarrassant parce qu'on ne sait pas très bien comment dire. Un peuple trésor, ça ne veut rien dire. Bon. Alors moi, je me suis demandé d'où venait le mot « ségoula ». Le mot « ségoula », vous savez qu'en hébreu, il y a des racines, en général il y a trois racines principalement, et lorsque des mots ou des verbes ont des racines identiques, c'est qu'il y a une très grande proximité entre eux. Or, le mot « ségoula » a pour racine, vous enlevez bien sûr les voyelles, c'est « s-g-l », et il a la même racine que le verbe « lesagel », que le verbe « leistagel », que le verbe « mesugal », qui sont tous des verbes qui veulent dire « s'adapter »,« être capable de ». Être apte à faire quelque chose. Et je crois que le Am Segula, c'est un peuple capable de s'adapter. Alors la vraie question, c'est de s'adapter à quoi? De s'adapter au décalogue. C'est-à-dire à une époque. Et c'est ça qui est, là encore, il faut, vous disiez tout à l'heure qu'il faut rappeler le contexte, je crois que vous avez raison. Le contexte est essentiel. C'est une époque où les sacrifices humains sont monnaie courante, où pour remercier le dieu idolâtre, on sacrifie son premier-né, les enfants. C'est une époque où le viol est monnaie courante. C'est une époque où on chasse les parents pour récupérer leurs biens. C'est une époque où on s'approprie les troupeaux de n'importe qui du moment qu'ils ne sont pas très bien gardés. Tout ça est contrebattu par le décalogue. Donc le décalogue dit, et je crois que c'est comme ça qu'il faut le remettre dans son contexte et le rapporter à peuple, entre guillemets, élu, si vous faites l'effort de changer cette situation dans laquelle vous vous trouvez comme tous les autres peuples de votre époque, alors vous aurez, si vous faites votre devoir, alors vous serez à part. Et quand on met en relation cette idée de peuple entre guillemets élu et qu'on cherche à savoir pourquoi il est à part, on trouve dans le Lévitique un verset que je cite, je crois bien dans le livre, qui dit « Kedoshim tiyu », c'est-à-dire « Vous serez saints, ki kadosh ani, parce que je suis saint ». Mais « Kedoshim tiyu », ki kadosh ani, ça veut dire que le mot « kadosh » on traduit par « saint ». Mais, par exemple, je dis simplement par exemple, quand vous dédicacez un livre, ce qui m'arrive quand même de temps en temps, en hébreu moderne, c'est du « akdasha », c'est-à-dire vous faites une différence. Le mot kadosh, même au tout début, dans la Genèse, lorsqu'on parle du Shabbat, on doit faire une différence. Si vous lisez « Vous serez saint parce que je suis saint », vous donnez au peuple une proximité avec le tétragramme qui est absolument incroyable. Mais si vous lisez « Vous serez différent parce que je suis différent », oui, je suis différent, je n'ai pas de nom, je suis indicible, je suis invisible, tout en étant omniprésent, je n'ai aucune possession, je n'ai rien, donc je suis totalement différent de tous les dieux qui existent. Eh bien, vous serez, si vous respectez l'éthique qui provient du décalogue mosaïque, alors vous aussi vous serez différent. Et vous serez différent, ça ne veut pas dire vous serez mieux. Et donc vous enclenchez quelque chose, mais il faut toujours, je le dis souvent, il faut savoir que ce n'est pas rester d'être morte. Le monde entier aujourd'hui respecte le week-end. Ça vient du Shabbat. Le monde entier, sauf dans certains régimes bien sûr, mais qui sont marginaux ou mineurs, le monde entier considère que assassiner, c'est pas bien. Il y a des lois contre l'assassinat. Donc tout ça, petit à petit, c'est diffusé. Si vous respectez ça, alors vous serez quelqu'un, disons, humaniste.
Vous citez à plusieurs reprises le philosophe Emmanuel Lévinas, qui lui-même a réfléchi sur cette notion d'élection. Son ami de l'école de pensée juive de Paris, la philosophe Eliane Amado-Lévy-Valency, le rejoint dans cette idée que l'élection, en fait, est une sorte de responsabilité qui pèse sur les épaules du peuple juif face aux autres nations. Que finalement, c'est pas forcément quelque chose de positif qui fait envie. C'est une charge que l'on a de montrer l'éthique du judaïsme aux 70 nations qui nous entourent. Est-ce que vous vous rapprochez de cette idée ?
Mon ami Henri Atlan dit que s'il existe une élection, c'est une élection par le devoir. Il dit ça dans son livre « Les étincelles de hasard ». Je ne suis pas éloigné de ce que vous avez dit, ainsi et de Lévinas. Simplement, j'établis une différence entre peuple hébreu et juif. Le peuple juif, c'est encore une question un peu qui mériterait d'être regardée d'un peu plus près. Je ne sais pas si c'est négatif ou si c'est positif, mais tout être humain, je dis bien tout être humain, qu'il soit juif ou non, qui s'inscrit dans cette éthique du devoir, pour reprendre le mot d'Henri Atlan, pour moi, est sur la voie de la justice. C'est la voie de la justice. Il n'y a pas besoin d'être juif pour être sur cette voie. Est-ce que ce sont les juifs qui montrent la voie ? Peut-être, pas toujours, les juifs sont comme les autres. Ils ont eu du mal à accepter ça, souvenez-vous du veau d'or. Ils ont eu du mal, ils ont pensé qu'ils étaient forcément une partie des juifs, peuvent penser qu'ils sont mieux. Le prophète Amos disait, attention, c'est pas parce que vous êtes parti d'Égypte et que votre Elohim vous a fait partir que vous êtes mieux, vous êtes comme les autres. Simplement, la capacité à construire cette éthique est une voie, effectivement, mais ce n'est pas une voie uniquement réservée aux juifs. Heureusement, il y a des gens merveilleux qui respectent cette voie et qui ne sont pas juifs. Alors, ce qui est important de dire, c'est que c'est dans la vision mosaïque que c'est apparu pour la première fois. Et de ce point de vue-là, effectivement, il y a une antériorité qui est fondamentale, et donc une responsabilité.
Vous écrivez dans votre livre, je vous cite, à la page 11, aux pages 11 et 12, « Cet essai soutient que la Bible hébraïque peut être lue aussi bien avec les yeux du monothéisme religieux qu'avec ceux de l'humanisme athée. Tout est affaire de point de vue au sens le plus précis de cette expression. » Alors finalement, qu'on soit croyant ou pas, est-ce que c'est l'éthique, la finalité de l'exégèse biblique ? Et finalement, votre livre donne un message qui est plus qu'œcuménique, c'est C'est-à-dire que, qu'ils que nous soyons, quelle que soit notre orientation religieuse, eh bien, il faut retourner au texte de la tradition juive pour y trouver un message métaphysique, philosophique et humaniste.
De la tradition hébraïque. Je suis très content de ce que vous dites, parce que c'est exactement ce que je veux faire passer comme idée. Le message biblique, notamment celui de la Torah, est un message universel. L'universalisme commence là. Et effectivement, je suis sûr que vous, comme moi, vous avez rencontré des gens qui sont des gens absolument merveilleux et qui viennent, ou qui sont, disons, qui ont des confessions différentes du judaïsme, mais qui sont dans cette même logique. C'est ça qui est fondamental. Et donc on retrouve là un discours qui est un discours général.
On va parler une dernière fois d'Emmanuel Levinas, qui tenait de son maître Chouchani, ce savant en matière juive qui a fait rêver et qui fait encore rêver un grand nombre de personnes, qui était aussi le maître de Elie Wiesel. Il tenait donc de son maître Chouchani que la Torah, qu'il faut aimer la Torah plus que Dieu. Est-ce que finalement, c'est pas ça aussi le message de votre livre ?
Bah oui, bien sûr. Parce que le mot Dieu est un mot qui est très difficile. Pour nous tous, on a du problème avec ça quand même. Bon. Mais dès lors que vous parlez de la Torah et que vous regardez le texte, tout d'un coup, c'est fondamental. Mais vous savez, même dans le christianisme, qu'est-ce que dit le Christ à un moment donné ? Il dit retournez au texte. Le texte. Or, ce texte-là est un texte vertigineux. Et il atteint, il culmine à mes yeux, hein, je ne dis pas que j'ai forcément raison, mais à mes yeux, il culmine dans ce verset 14 du chapitre 3 de l'Exode. Donc oui, je suis totalement d'accord avec ce que disait Chouchani, ça ne vous surprendra pas.
Alors, est-ce que votre réflexion se poursuit ? Est-ce que vous travaillez sur un nouveau thème biblique en ce moment ?
Ma réflexion se poursuit, elle est longue, parce que j'ai commencé il y a pas mal d'années, et notamment sur les relations qui pourraient exister entre la pensée hébraïque, biblique, et la pensée grecque. Parce que je suis toujours frappé du fait que l'histoire de la philosophie ne tient pas compte de l'existence de la Bible, alors que la Bible a une dimension philosophique incontestable.
Alors Eliane Amado-Lévy-Valencien, on revient sur elle justement, elle a parlé de scotomisation des sources de la tradition juive dans la civilisation occidentale qui reposait sur Athènes et Rome, donc la philosophie et le christianisme, et donc elle s'inscrivait aussi dans ce mouvement et dans cette réflexion. Il y a une question classique mais néanmoins difficile pour conclure cette émission, si en une ou deux phrases vous deviez donner l'envie aux auditrices et aux auditeurs de la fréquence juive de lire votre livre, qu'est-ce que vous leur diriez ?
C'est une question difficile, ça. Je crois que ce que j'ai envie de dire sur ce point, c'est que c'est un livre qui se lit facilement, mais qui pose des questions de fond. Et que donc, lorsque on est confronté à une question de fond, il n'apporte pas des réponses, il pose des questions. Et les questions, c'est ce qui rapproche les êtres humains. Les réponses, c'est ce qui les oppose. Donc, voilà ce que j'aurais envie de dire. Je ne sais pas si ça va convaincre les lecteurs, mais en tout cas, voilà ce que j'ai envie de dire.
Merci infiniment, François Racheline, d'avoir évoqué avec nous votre actualité. Je rappelle qu'il s'agit de la publication du livre « Moïse et l'humanisme » chez Hermann. Et comme vous le disiez, quelle que soit son orientation religieuse, hein, c'est un livre qui ouvre au débat, qui ouvre au dialogue. Et alors une nouvelle fois, hein, je vais citer Eliane Amado-Lévy-Valency, que j'aime beaucoup. Et en lisant votre livre, je pensais vraiment à ça. C'est que quand on est dans un dialogue, il n'y a pas que les deux interlocuteurs qui débattent. Il y a aussi la troisième voie vers laquelle ils tendent, et que l'on soit dans une vision religieuse de la lecture du texte, ou dans une vision philosophique, ou dans les deux, eh bien, votre livre ouvre peut-être une troisième voie. Et donc, c'est pour ça qu'il est intéressant de le lire. Merci beaucoup, et puis à très bientôt, j'espère.
Merci à vous. Merci beaucoup.